On pourrait croire évidemment que le roman du mariage est un roman intellectualisant. C'est d'ailleurs un peu ce que l'on sent dans la façon dont le livre est traité en France, où on a été assez flatté, en fait, d'y constater la présence de Barthes, Derrida, de Foucault, etc., parmi les maîtres à penser de la jeunesse de ces années 80. Or, l'auteur Eugénie d'Este n'est absolument pas dupe. Il sait très très bien que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une espèce de mainmise intellectuelle sur l'approche de la littérature qui a rendu les cours plus abscons, qui a rendu les cours infiniment plus intellectualisants et beaucoup moins axés sur l'émotion, par exemple, et sur les véritables questions humaines, par le fait même que l'on transite par une approche hyper cérébrale, qui n'est pas, il faut l'avouer, entièrement le cas du livre de Barthes, Fragment d'un discours amoureux, dont on se souvient d'ailleurs que lorsqu'il est sorti, on disait qu'au fond, c'était peut-être pas un essai, mais plutôt un roman raté. Ce qui est probablement vrai. Barthes a toujours flirté avec l'idée d'écrire un roman, il n'en a jamais fait, mais il a énormément tournicoté autour. Mais la réalité est que, de fait, dans les universités américaines, dans les grandes prestigieuses, comme d'autres moins connues, comme Brown, les profs de lettres trouvaient extrêmement élégant à cette époque, non seulement de se référer à ces French thinkers, mais même de les inviter. Et c'est ce qui explique que Derrida ait passé tant de temps aux États-Unis. Mais ce n'est qu'un aspect du livre. Le livre, qui compte plus de 550 pages, a cinq parties, et ça n'occupe qu'une partie du livre, et encore, pas du tout, exclusivement. Mais ce que Evangelides nous indique bien, c'est que la perception que l'on a de l'amour en particulier est quelque chose qui ne peut pas ne pas être marqué par la culture, parce que l'amour est une des thématiques les plus courues par le théâtre, par le roman, par la fiction en général, et qu'il y a donc à tous les niveaux littéraires d'ailleurs une part d'identification à l'imaginaire, que ce soit à travers de grands auteurs extrêmement raffinés comme Proust ou Henry James, ou tout simplement dans les romans à succès ou les romans de gare. Ils transbahutent tous une certaine image de l'amour à laquelle un type de public s'identifie. C'est encore le cas aujourd'hui, par exemple, où on sent que les adolescents perçoivent l'amour à travers le canal d'un nouveau vampirisme, d'un côté, et de l'autre, on sent que la bourgeoise d'aujourd'hui découvre l'érotisme à travers cette machine que sont les 50 nuances degrés. Donc, qu'il y ait une espèce d'interaction, de dialectique entre l'émotion, l'expérience, et d'autre part sa vision intellectuelle, romanesque, imaginaire, est un fait certain. Ce qu'il y a d'intéressant dans le livre de Evangelides, c'est qu'il écrit néanmoins un roman d'amour, alors qu'il est parfaitement lucide, conscient de tous ces types de dérèglements et de presque de dérives. Il écrit néanmoins un roman d'amour. Et ce qu'il y a de très intéressant et de très fort dans ce roman, c'est que il met l'amour en présence d'autres types de hantises ou même d'obsessions qui sont d'une autre nature. Par exemple, dans le cas d'un de ses personnages, Mitchell, c'est la recherche métaphysique. Donc c'est un jeune homme très doué pour la philosophie, remarqué par un professeur qui lui fait lire Kierkegaard, Schopenhauer, et qui est très à l'aise dans tout ça, puis qui est tellement attiré par la mystique qu'il se rend aux Indes, qu'il va même travailler de manière bénévole auprès de Mère Teresa, et qu'il finira Quaker. Oui, mais c'est très rare aujourd'hui de lire un roman dans lequel le sentiment religieux est traité de cette manière-là. De l'autre côté, le cas de Léonard est celui d'un garçon né dans un milieu familial très déséquilibré, extrêmement doué intellectuellement, qui est fort en tout, qui est un mathématicien, un physicien, un chimiste, enfin, quelle que soit la matière qu'il aborde, il la domine immédiatement, mais bien entendu, qui est, du fait même de cet ancrage personnel et familial, très exposé à la dépression. Et la façon dont Evangelides décrit le processus de la maniaco-dépression, je n'en connais pas d'autres exemples en littérature. Bien sûr qu'il y a des essais, des traités, des ouvrages scientifiques sur la question, mais ici, de montrer en action un personnage qui est à ce point exposé et d'écrire son comportement dans lequel les alternances d'enthousiasme débridé et de tendances autodestructrices sont poussées aussi loin, je crois qu'on n'en a pas, je ne connais pas en tout cas d'exemples qui le fassent d'une manière à la fois aussi précise, aussi informée et en même temps aussi compassionnelle. Dans les cas des trois personnages, l'étude de leur individualité et de leur singularité est poussée extrêmement loin. Même le personnage de Madeleine, qui est une jeune femme équilibrée, qui simplement est beaucoup plus attirée par Léonard, ce qui lui vaut évidemment énormément de problèmes. Son mariage d'ailleurs, parce que c'est ne rien inventer que de dire que c'est Léonard qu'elle va épouser, mais son mariage durera 2 mois. Et elle n'épousera pas non plus, et j'ose le dire, elle n'épousera pas Mitchell non plus, mais la raison pour laquelle ça se passe de cette manière, c'est une espèce de formidable interrogation sur le mariage en soi. Et c'est cela qui est extrêmement intéressant à une époque où on milite pour le mariage pour tous. C'est qu'avant de se battre pour que tout le monde y ait, entre guillemets, droit, il faudrait quand même un peu s'arrêter sur le fait de ce que c'est que le mariage dans le monde d'aujourd'hui. Et il y a cette merveilleuse boutade de Jean d'Ormesson interrogé sur le droit à l'adoption des couples homosexuels et qui a dit j'ai trop d'affection pour mes amis homosexuels pour ne pas vouloir leur épargner les affres du mariage. C'est une des choses les plus sages que l'on pouvait dire sur ce sujet. Donc, en n'étant pas du tout un roman à thèse, pas du tout, parce que ça brasse des idées, mais ce sont des idées incarnées. Parce que justement, dans ces milieux universitaires, dans les campus universitaires américains ou ailleurs, il y a cette expérience que font, que nous avons tous fait, disons à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, d'être à la fois confronté à des expériences de vie souvent formatrices et de l'autre d'être tout le temps dans une espèce de bain intellectuel qui fait que ça ne fait que confirmer la fameuse phrase de la Rochefoucauld, c'est-à-dire où est la part d'acquis et la part d'appris dans l'expérience amoureuse. Ce qui est très très bien rendu aussi chez Evangelides, ce sont les relations que les trois ont avec leurs parents. Et là, il fait un portrait des pères et mères de chacun, qui est extrêmement savoureux, qui fait un peu penser au portrait de parents que fait Woody Allen dans sa dernière comédie. Il est absolument impitoyable pour ces quinquagénaires, sexagénaires, qui sont complètement dépassés par ce qui arrive à leur progéniture. Une question que l'on doit se poser néanmoins, à lire ceci, c'est qu'il a pris bien soin de situer son action dans les années 80, et même au début des années 80. Par exemple, il y a un épisode où, en guise de voyage de noces, pour ainsi dire, Léonard et Madeleine se rendent à Monaco. Alors, ils sont à Monaco, et c'est bien précisé, un an après la mort de la princesse Grace. Mais pour eux, évidemment, la princesse Grace n'est pas une princesse, c'est une vedette de cinéma. Donc, c'est un petit détail, mais qui montre qu'il y a un travail de cadrage très particulier de la part de quelqu'un qui a non seulement une immense culture, mais qui a visiblement parcouru le monde, parce que tout ce qu'il raconte sur ce qu'éprouve Mitchell, par exemple, à Bombay et à Calcutta, c'est pris sur le vif. Il y a des descriptions des hôpitaux de Bombay qui sont d'une crudité presque insoutenable, que on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas inventer. La manière aussi très, très clinique, mais demeurant littéraire, dont il rend compte de la maladie de Léonard, vaut en fait ce que tentait de faire Flaubert en son temps. Parce que quand on voit Madame Bovary, en tant que description du système médical et pharmaceutique de l'époque, on a un peu tendance à passer par-dessus cela, mais si on regarde ça de près, Flaubert avait vraiment tenté d'épuiser la question. Ce qu'on voit bien aussi chez Zola, quand il écrit Germinal, c'est fait sur base d'un travail de reporter sur le terrain, au point que lorsque Tom Wolfe, qui est un grand romancier américain, qui a aussi une œuvre assez restreinte au niveau romanesque. En fait, il a fait que trois romans aussi, Tom Wolfe. Les restes, c'est des grands reportages. Tom Wolfe, que j'ai eu l'occasion d'interviewer au moment du Bûcher des Vanités, me disait: mon modèle, c'est Zola. Et ce qui m'a très fort impressionné, disait-il, c'est que nous avons des témoignages que Zola descendait dans la mine avec les mineurs, ce que moi, j'ai essayé de faire, et de manière d'ailleurs assez visionnaire dans son cas, dans les milieux des finances new-yorkais, dont il a parlé il y a maintenant plus de 25 ans. Il y a donc ce côté typiquement, j'allais dire américain, si on veut, dans la recherche très serrée de la documentation, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est une incroyable science de la narration, une façon de placer des retournements, des coups de théâtre, avec vraiment une stratégie formidablement précise. Il y a énormément d'humour, pratiquement constant, et il y a aussi un don d'empathie. C'est qu'il est, il est très près de tous ces personnages, de tous. C'est-à-dire, à la différence, encore une fois, l'éducation sentimentale, où tout se passe autour de Frédéric Moreau, ici, il y a ces deux garçons. Qu'il approche avec la même attention. Et ce personnage de femme, Madeleine, qui est un personnage, à mon avis, qui marquera, parce qu'elle, justement, est peut-être sur le plan du comportement amoureux, elle est visiblement une image anticipée de la femme qui, à ce moment-là, est en train de naître, c'est-à-dire la femme qui dépasse le stade de la conjugalité. Donc on a un livre d'une formidable richesse, très, très attachant, vraiment, très, très important, et qui en plus, c'est vrai, ne l'oublions pas, a cette élégance que moi j'apprécie formidablement. Et que j'ai un peu appliqué quand j'ai écrit le Magnolia, c'est-à-dire d'écrire un vaudeville sur quelqu'un qui est dit le vaudeville. Et ici, c'est un roman sur quelqu'un, un roman d'amour sur quelqu'un qui étudie le roman d'amour. Donc, c'est ce qu'on peut appeler, pour cette raison-là, un roman qui est une mise en abîme du roman.